Bien. Bonjour. Alors, des fauteuils vont nous être apportés. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous allons commencer donc cette table ronde dédiée à Terry Pratchett. Donc Terry Pratchett, que je ne présenterai que succinctement, vous savez pourquoi vous êtes là, je pense. Vous êtes là pour rendre avec nous un hommage à un auteur qui a été à la fois prolifique et populaire, un auteur qui a donné de nouvelles couleurs, une huitième, mais bon, bien d'autres couleurs, à la fantasy et indirectement à la science-fiction, puisqu'on ne peut pas tout à fait exclure que Terry Pratchett soit un auteur de science-fiction. Et il a, au fil des annales du Disque Monde notamment, mais ce n'est pas à ça que se résume son œuvre, vous en verrez quelques images évidemment tournées un peu autour de nous, eh bien, il a donc créé de nouvelles manières d'envisager la fantasy, créé de nouvelles manières de rire de la fantasy, surtout, ce qui n'était pas si évident. Hein. Bien sûr, Pratchett n'a pas inventé l'humour, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut, après lui, faire de la fantasy bien moins sérieusement, mais tout aussi intelligemment qu'auparavant avec les grands fondateurs qui, eux, bon, n'avaient que rarement le sourire. Je pense notamment à Tolkien, référence incontournable, mais dont tout de même il vaut mieux se pincer pour en rire. Je vais donner la parole à mes intervenants. Hein, une fois que mes intervenants seront bien calés. Hein, voilà. Et donc, pour parler avec nous aujourd'hui de Terry Pratchett, des personnes très bien placées pour en parler, bien sûr. Voilà, et maintenant bien assises. Donc, Patrick Couthon, qui, entre autres titres de gloire, est le traducteur officiel et auquel nous sommes infiniment reconnaissants de Terry Pratchett, ce pour lequel il a obtenu notamment le Grand Prix de l'Imaginaire, et qui est là notamment pour nous parler de sa relation à l'écriture, au style de Pratchett. Mireille Rivalan, qui est... Donc, qui dirige la collection de La Talente et qui, au fil de ses éditions, a découvert de nombreux auteurs et qui est là notamment pour nous parler de la manière dont Pratchett est apparu dans sa collection, puisque c'est La Talente qui a notamment permis de découvrir les annales du Disque Monde. Et... Donc, elle est là pour nous parler, effectivement, de ce parcours éditorial qui, malheureusement, s'achève. Mais il a peut-être un avenir au-delà d'aujourd'hui. Jeanne Adebatz, qui est donc écrivain connu pour notamment La Vieille Anglaise et Le Continent, qui a reçu bon, de nombreux prix, mais nous sommes là pour parler de Pratchett, je ne vais pas parler de tout cela indéfiniment, mais je rappelle que son roman jeunesse Pixel Noir a reçu le prix européen jeunesse des Utopias 2014, donc où nous sommes, et que son dernier roman adulte, Alouette, va sortir au premier trimestre 2016. Et elle est là notamment parce que... admiratrice de Pratchett comme nous tous, elle en partage un certain nombre de traits, notamment l'engagement et, je dirais, la colère dirigée. Mais nous reparlerons peut-être de la colère de Pratchett tout à l'heure. Catherine Dufour, s'est illustrée à la manière de Pratchett dans la fantaisie humoristique avec Blanche-Neige et les lance-missiles, et qui a été suivie de trois autres tomes, Quand les dieux buvaient, donc vous en verrez quelques couvertures qui tournent ici. Et qui a notamment reçu le Grand Prix de l'Imaginaire pour le goût de l'immortalité en 2007. Je signale toujours dans la tonalité donc semi-humoristique, mais je doute que nous en parlions aujourd'hui malgré tout, parce que c'est peut-être une chose dont il faudrait parler, c'est la sexualité chez Pratchett, qui est finalement assez contenue. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas de La vie sexuelle de Lorenzaccio, donc sorti en 2014. Voilà, c'est ça, ça se passe, il y a des ellipses entre les tomes, comme dit Jean-Claude Dugnac. Donc Jean-Claude Dugnac, ingénieur aéronautique et en parallèle écrivain, je ne vais pas détailler tous ces titres, mais vous le connaissez bien, également membre du jury du Grand Prix de l'Imaginaire, donc partiellement responsable d'un ensemble de prix qui ont été cités jusqu'ici, et qui est un auteur de science-fiction avant tout, auteur d'une centaine de nouvelles, hein, publiées à La Talente notamment, qui, avec Heyerdahl, qui malheureusement nous a quittés, vous le savez, je suppose, a signé notamment Étoile Mourante, qui a reçu de nombreux prix et bon, auquel on consacrait une table ronde l'année dernière. Et c'est également, ça c'est relativement récent, il est devenu récemment le biographe d'un troll particulièrement obtus, donc dont, là aussi, ouvrage dont vous verrez la couverture tournée avec nous. Voilà, donc après cette assez longue présentation, je vous prie de m'en excuser, mais nous sommes nombreux et nous sommes. Et donc, il nous faudra bien partager la parole. Je souhaiterais donc revenir un petit peu sur l'homme et son œuvre, donc Terry Pratchett, en signalant donc quelques éléments, donc plus d'une quarantaine de tomes pour les annales du Disque Monde, des séries avec des personnages extrêmement sympathiques comme la mort par exemple, ou comme Rincevent, les différentes sorcières et les différentes créatures imaginées réunies au sein du régiment, des différents régiments ou au sein du guet dirigé par Samuel Wimmer. Donc de très nombreuses créatures, de très nombreuses situations et un monde, un univers qu'il serait impossible d'explorer en une heure. Comme avait coutume de le dire Terry Pratchett, so much universe, so little time. Donc nous n'aurons pas assez le temps pour parler de toute la réalité de Pratchett, mais nous allons essayer de le faire ici. Et Pratchett, c'est aussi, tout un imaginaire visuel. Que vous retrouvez donc dans les images qui sont là et qui sont liées aux illustrateurs qui lui ont été associés, donc Josh Kirby et Paul Kidby notamment, et c'est aussi tout un imaginaire visuel développé dans un ensemble de livres comme La science du disque monde, comme le guide de Madame Shea, donc une des parutions récentes qu'il y a là, qui sont des moyens de visualiser, de voir sur pièce le monde de Terry Pratchett. Mais pour finir, bien sûr, nous ne parlerons pas que du Disque Monde, puisque c'est aussi un auteur qui s'est illustré avec d'autres ouvrages absolument extraordinaires. Je pense à De bons présages qu'il a signé avec Neil Gaiman, qui est un livre définitif sur l'Apocalypse, au sens chrétien du terme. Il y a plus récemment une série absolument enthousiasmante autour de la Longue Terre, enfin, de longue, et c'est une série déclinée en 4 tomes, qui est une approche extrêmement optimiste de ce que peut être l'avenir de l'univers, de l'homme, dans un univers qui justement se démultiplie, puisqu'il s'agit d'avoir accès à des univers parallèles de façon indéterminée. Alors je m'arrête là parce que ce n'est pas pour moi qu'on est venu ici, c'est pour Terry Pratchett et pour ceux qui l'ont apprécié. Et j'aimerais commencer avec cette question extrêmement ouverte et dont vous pouvez vous emparer comme vous le souhaitez, qui est finalement, que représente Terry Pratchett pour vous ? Et vous êtes tout à fait libre vous n'êtes pas obligé d'entrer dans l'intimité, mais vous pouvez aussi bien parler de ce que vous avez ressenti comme lecteur que ce que vous en avez apprécié, disons d'un point de vue plus intellectuel ou d'un point de vue plus esthétique. Voilà, je vais laisser Catherine Dufour commencer.
Alors pour moi, Terry Pratchett, c'est ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, mon ecstasy, exactement. Moi, ça date de quoi ? Quand j'avais 25 ans, bon, j'ai traversé une période pas facile, comme ça arrive à tout le monde, et tout d'un coup, je suis tombée sur Pratchett. J'avais toujours écrit, j'avais jamais vu l'utilité de me faire publier, et là, Pratchett m'a fait rire et ça m'a fait du bien. Je me suis dit qu'il aurait dû être remboursé par la Sécu. Et du coup, je me suis dit, ben moi, je vais faire pareil. Je vais écrire comme Pratchett des trucs qui font rire les gens pour leur faire du bien. Et j'ai écrit à Pratchett en lui disant, est-ce que je peux vous plagier ? On dit plagiarize, hein, en anglais. Et il m'a jamais répondu. Alors du coup, sur l'adage de suant de mauvaise foi, qui ne dit mot consent, j'ai écrit en une semaine Blanche-Neige et les lance-missiles. Et je l'ai publié et ça a pas mal marché. Et j'en ai écrit 4 autres derrière. Donc... merci à Terry Pratchett pour l'ensemble de son œuvre et tout le bien qu'il m'a fait à moi, mais je suis bien persuadée qu'il n'y a pas qu'à moi.
Merci. Jeanne de Batz.
Alors, pour moi, Pratchett, c'est en partie, effectivement, une espèce de cam, puisque je le relis depuis toujours, depuis le premier tome, en boucle, en général, avec des... Avec des motifs préférés. Par exemple, c'est toujours par le guet que je commence. Parce que le guet, c'est vraiment mon endroit, le guet. J'adore le cycle de la mort aussi, mais c'est le deuxième. Le faucheur restant, pour moi, le livre de cet endroit-là. Pratchett ne m'a pas donné envie d'écrire, il m'a donné envie de comprendre les liens qu'il y avait entre la fantaisie et la science-fiction. Parce que, au final, j'ai fini par décider que c'était un merveilleux écrivain de science-fiction. Voilà. Et du coup, je me suis mis à faire de la fantaisie urbaine de science-fiction.
Jean-Claude Duniac.
Bon, en fait, j'ai découvert Pratchett, je dirais pas relativement tard, mais je devais avoir à peu près 30 ans, ce qui fait que c'était bien au siècle dernier, mais c'était tard dans mon développement personnel. Et j'ai commencé curieusement par De bons présages. Et au passage, dans De bons présages, quand on a rencontré physiquement les auteurs, on sait que l'ange, c'est l'autoportrait de Pratchett, et le démon, l'autoportrait de Neil Gaiman, et qui en plus se sont vraiment régalés à se mettre en scène de cette façon-là. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui fonctionne et qui fonctionne suivant des règles qui me paraissent remarquablement logiques, mais dont je ne savais pas qu'on pouvait les appliquer à ce domaine-là. Parce que Pratchett, pour moi, ça, outre les nombreux éclats de rire et les moments merveilleusement où on se sent bien, c'est parce qu'on se sent bien quand on lit Pratchett, ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas de se poser des tas de questions, mais il y a une espèce de jubilation étrange qui naît des pages. Et je me suis dit, comment fait-il pour partir de manière extrêmement sérieuse, de partir d'un postulat de fantaisie, de conte de fées extrêmement précis, et à partir de là, d'en prolonger les effets en utilisant uniquement des choses qui sont la logique, le bon sens, etc., jusqu'à obtenir des effets absolument hilarants. L'exemple absolument classique, c'est vous avez la princesse qui va au bal parce qu'elle a un carrosse qui a été fabriqué à partir d'une tricitrouille, et quand elle débarque au bal, eh ben, elle a l'odeur de la citrouille. C'est-à-dire qu'il y a la sorcière qui dit « Moi, je dis que se pointer dans un bal en sentant la tarte au potiron, c'est pas, ça fait plaisir à personne. » Et c'est tout à fait ça. Et je me dis « Ok, comment se fait-il que les nains ne sifflent pas en travaillant ? Parce qu'ils commencent à t'expliquer que non, c'est pas possible, il va falloir être sonné parce que ça crée des vibrations, on risque de faire tomber des chutes de rochers. » C'est tout à fait logique. Donc je me suis dit, si on peut faire ça, à quoi peut-on appliquer ça ? Et comme le dit Jeanne, c'est aussi un écrivain de science-fiction de manière extrêmement intéressante. Et pour ceux qui ont vu les films tirés des œuvres de Pratchett, je recommande ce moment absolument merveilleux de l'éclosion de l'œuf de la tortue portant le monde. Et si vous avez l'occasion de voir ça, vous vous rendez compte que c'est véritablement de la science-fiction au sens premier.
Mireille Rivalan, oui.
Alors, pour moi, ça arrive aussi assez tard dans ma vie littéraire, parce que je pense que nous avons commencé à publier Pratchett en 92-93, et j'avais peut-être lu Le Peuple du Tapis, s'il était paru avant, je ne sais plus. Ah, c'est ça, donc je connaissais Le Peuple du Tapis. Mon rapport à la langue de Pratchett est en fait lié à Patrick Couthon. C'est-à-dire que j'ai lu du Pratchett Couthon. J'ai entendu du Pratchett Couthon, tout simplement parce que Patrick, qui habite Nantes, qui fréquentait et toujours la librairie La Talente au moins une fois par jour, arrivait et montait dans les bureaux et il nous racontait son dernier moment de traduction, sa dernière difficulté de traduction, sa dernière blague, et les testait sur nous. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je pense que Sophie Ricordeau, Pierre Michaud et moi-même avons été avant tout le public de Patrick Couthon. Donc, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment, je pense, ce qui nous a vraiment reliés les uns aux autres. Pour ce qui est de ce que m'apporte Pratchett, je rejoins Jeanne et Jean-Claude. J'estime que c'est de la science-fiction. Alors, je vais donner une autre raison que les leurs. Tout simplement parce que la science-fiction m'apporte intellectuellement et émotionnellement un vertige. Et je le trouve chez Pratchett. Donc à partir de là, je dirais, c'est QFD, c'est de la science-fiction. Nous mettons néanmoins dessus, et notre camarade libraire le vend pour de la fantaisie burlesque tous les jours, et c'est très bien aussi. Mais oui, je suis certaine que c'est une grande œuvre de science-fiction.
Et ce n'est pas par hasard, de ce point de vue-là, qu'il y a effectivement des volumes de la science du disque monde, ou là, plus récemment, ce guide sur les transports ferroviaires du disque monde, le guide de Madame Shea. Ce n'est pas par hasard, si on peut développer ce genre de choses dans l'univers de Pratchett, c'est parce qu'il y a une structuration de son univers qui est moins fantaisiste au sens, disons, aléatoire du terme. Rien n'est véritablement aléatoire. Il y a une structure... extraordinaire, et une partie de cette structure, c'est la structure de la langue, le développement de son imaginaire à travers les noms des personnages, à travers toutes sortes d'éléments qui sont des défis pour le traducteur. Patrick Couton.
Ah oui, c'est des défis, j'en ai eu, parce que enfin, je ne les ai pas comptés, parce que par roman, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'ai découvert Terry Pratchett en même temps que La Talente, en fait, puisque c'est La Talente qui m'a proposé de les traduire. Et ça remonte effectivement en 1992. C'est-à-dire que depuis 23 ans maintenant, Pratchett m'a lancé des défis quasi quotidiennement, parce que je n'ai pas traduit beaucoup d'autres livres en dehors de lui en 23 ans. Peu, c'est vrai. J'ai dû en traduire entre les romans et tout ce qui tourne autour, une cinquantaine d'œuvres de Terry Pratchett, ce qui fait quand même pas mal. Et en fait, Pratchett m'a fait, moi, découvrir l'héroïque fantasy, parce que je n'en avais jamais lu avant, je pense pas, ou très très peu. Et ce qui m'a plu chez Pratchett, évidemment, c'est l'humour, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est roman d'humour. J'étais un fan de Pierre Dac, j'étais un fan de comment il s'appelait, oh, ça remonte loin, celui qui a fait, hein, Camille, tout ça, enfin tout, Alphonse Allais, tout ça. Et donc je me suis retrouvé dans ces romans et dans ces défis. Alors évidemment les défis, je peux répondre, je peux expliquer un peu. Je vais essayer, parce que j'ai une fâcheuse tendance à vite oublier ce que je traduis. Même quand j'arrive à la fin d'un roman, j'ai déjà oublié le début. Donc une série de 41 bouquins, vous voyez un peu, je ne sais plus exactement de quoi parle chaque roman, mais je me souviens des défis et des cheveux que je me suis arrachés. Enfin, pas ceux-là, non, en fait, ils sont tombés tout seuls. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais en même temps, c'était un très, très grand plaisir. Parce que lorsqu'on passe, je ne sais pas, parfois un jour ou deux à chercher une blague en français, pas 24 heures sur 24, hein, rassurez-vous, et qu'on on trouve quelque chose qui se tienne en français, là, c'est jouissif au possible, quoi. Et ça m'est arrivé régulièrement. Effectivement, j'ai essayé ces blagues sur les gens de La Talente, puisque, comme disait Mireille, j'y allais à peu près une fois par jour pour mon café, et puis pour discuter, et puis voir si les blagues fonctionnaient. Alors, les blagues... en fait, il n'y a pas que les blagues, parce qu'il y avait les jeux de mots, évidemment. Ça, c'est très difficile. Les références, parce que Pratchett émaille ses récits de références, de citations en tout genre, qui vont de poètes... inconnu même pour les Anglais, je pense, des poètes élisabétains. Bon, Shakespeare, bon, Marlowe, ça va encore, mais après, j'ai oublié le nom de ces poètes inconnus, d'ailleurs, ou obscurs. Et essayer d'adapter ces références anglaises pour les lecteurs français, en mettant évidemment des références françaises. Les références, qu'est-ce qu'il y avait ? Références à des films, des citations de films. Alors ça va de dessins animés, aussi bien, je disais l'autre jour, de Dumbo l'éléphant, puisqu'il cite Dumbo l'éléphant, jusqu'à des citations de Casablanca, en passant par l'inspecteur Harry. Enfin, tout y passe. Vous allez me dire, comment est-ce que j'ai pu repérer toutes ces références ? J'avais la chance, j'ai eu la chance de tomber sur un site qui doit être connu maintenant, je pense, un site anglais où tous les fondus de Terry Pratchett signalaient les références qu'ils avaient découvertes. Et du coup, pour chaque roman, il y avait, je ne sais pas, 4 ou 5 pages de références mentionnées. Donc, j'allais sur ces pages et je voyais, par exemple, une citation quelconque. Et un lecteur avait signalé que c'était un vers de Othello, acte 3, scène 2, etc. Donc, il me suffisait de prendre la version française d'Othello et de recopier. Ça, c'était assez simple. Pour les films, c'était pareil. Il fallait que je trouve la version française. Alors, bon... film problème parce qu'il y a la version doublée et la version sous-titrée et les traductions sont parfois différentes. C'est comme ça que Casablanca, je l'ai vu, je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu au moins 4-5 fois. L'inspecteur Harry aussi. Enfin bon, ça va. Autre difficulté aussi, il y avait les niveaux de langage. Niveau de langage, parce que évidemment, Mémé Sire du Temps ne parle pas comme Samuel Vimer, qui ne parle pas comme le patricien, et ça aussi, ça m'a donné pas mal de travail. En particulier lorsque l'action se passe, par exemple, dans le dernier continent, dans un continent qui ressemble étrangement à l'Australie. Et évidemment, Pratchett utilise des termes et des expressions australiennes. Et du coup, moi, je me suis penché sur les expressions de Nouvelle-Calédonie, qui c'est un peu dans le même hémisphère, et c'est comme ça que l'expression australienne "no worries" se traduit. Je l'ai traduite en français par "casse pas la tête". Casse pas la tête, c'est une expression qui vient de Nouvelle-Calédonie. Bon, j'ai étudié comme ça le créole aussi pour une prêtresse vaudou dans une ville qui ressemble à la Nouvelle-Orléans. Ce qui me pose le plus de problèmes en ce moment, parce que je viens de commencer le dernier roman de Terry Pratchett, là, La couronne du berger. Je pense que ce sera le titre français, ouais, si l'éditrice est d'accord. Enfin, c'est ce que j'avais pensé l'appeler Les poils du berger, mais je ne sais pas si ça parle de poils. Ça parle de chèvres, en tout cas. Oui, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, les romans avec Tiffen Patrak et avec les Nat McFeagles, parce qu'eux parlent, dans la version originale, une espèce d'écossais, et moi, je me suis mis en tête de les faire parler une espèce de picard. Donc, je suis pas un spécialiste du ch'ti, mais j'ai des dictionnaires et j'écris des dialogues en picard. Et ça, ça prend énormément de temps. Voilà. Bon, j'ai pris beaucoup de temps aussi, d'ailleurs, je crois.
Au contraire, c'est... Alors, justement, sur l'humour de Pratchett, si vous voulez, si vous voulez donner quelques indications sur ce qui vous semble le plus frappant, personnellement, ce qui m'a toujours fasciné dans le style et dans le style Monty Python de Pratchett, c'est son usage des notes de bas de page. Mais c'est peut-être pas le point qui a retenu le plus votre attention, mais j'ai toujours été un grand lecteur de notes de bas de page, et le problème des notes de Terry Pratchett, c'est que les notes de bas de page ont elles-mêmes des notes de bas de page, et donc au bout d'un moment, on ne sait plus très bien de quoi on parle, mais lui le sait. Donc si vous souhaitez réagir sur la question de l'humour de Pratchett, vous pouvez, sinon on peut en venir à la réalité de Pratchett. C'est le sujet suivant. Allons-y.
Juste dire quelque chose, c'est que... Jana de Batz. La note de bas de page jusqu'à Pratchett, je détestais ça. Et puis là, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, la note de bas de page. Et depuis, j'en mets partout. De préférence, ouais, en plus, je me cache même pas. Ça peut être le cauchemar de mes maquettistes. Il n'y a qu'une personne au monde, je crois, qui nous bat, Terry Pratchett et moi, à plate couture en note de bas de page, c'est Timothée Ray. Même pas Jasper Ford. Hein. Non, Timothée Ray est le roi mondial de la note de bas de page. Mais. Attends. Tu...
Dans un bouquin où tu as des pages qui suivent.
Danny Levski, La Maison des Feuilles. À la limite, un chapitre entier constitué d'une ligne suivie de bas de page, appelée de bas de page, etc. Dans tous les trucs, avec à chaque fois des typographies différentes pour montrer où vous en êtes. Le maquettiste, je pense, est mort. Hein, et je pense qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédés. Je crois que c'est le record absolu.
Ah, sûrement. Cela étant, il y a quand même Jasper Ford qui avait réussi à faire discuter les notes de bas de page avec le texte. Et ça, c'était absolument génial. Mais je pense que Ford, comme Ray, comme moi, on doit énormément à Terry Pratchett, et les maquettistes n'ont plus qu'à aller cracher sur la tombe de Terry.
Je pense que Terry Pratchett aimait bien ses maquettistes. Il n'était pas hostile.
C'est pas seulement les maquettistes. Je crois que les éditeurs n'aiment pas tant que ça les notes de bas de page.
Non.
Mais bon, j'ai tendance à dire. Il n'y a pas de souci avec des principes formels aussi littéraires de la note de bas de page. Néanmoins, pour la plupart des gens qui ne maîtriseraient pas la note de bas de page, c'est une démission du texte. Donc, en tant qu'éditrice, je surveille de près les notes de bas de page. Par contre, pour ce qui est des éditions de Terry Pratchett, le fait qu'il se soit un fou de la note de bas de page fait qu'en français, nous avons interdit à Patrick Couthon la note de bas de page. Il avait tendance à se l'interdire lui-même, donc ce n'était pas, on était d'accord. Qui veut dire que c'est pour ça que vous avez une version aussi traduite. Quand je dis traduite, c'est-à-dire avec tous ces rapports à la langue française, en fait, y compris les références deviennent des références françaises, parce que dans la plupart des autres pays, les références sont en note de bas de page, ce qui est quand même très très grave quand on a une œuvre comme celle de Pratchett.
Oui, qui est une œuvre effectivement ouverte et qui fait appel à une dynamique de lecture, une activité spécifique du lecteur. Quelques réactions sur l'humour.
Je voulais juste dire à propos des notes de bas de page que si j'ai droit à une note de bas de page par bouquin pour dire que la mort est de sexe masculin, c'est tout. Alors le problème évidemment, c'est qu'en 41 volumes, il faut varier la note de bas de page et c'est pas toujours facile, c'est le plus dur. Enfin, je l'ai pour le dernier, ça.
Une autre façon de faire de l'humour de Pratchett qui me ravit à chaque fois, c'est la façon dont il reprend. Mais ça, c'est toi qui le fais aussi, parce que tu as dû choper une expression française pour traduire ça. Dont il reprend une expression qu'on connaît, il caressait cette idée, par exemple. Et là, le Pratchettien rajoute, il caressait cette idée et même il lui faisait un brushing avec un petit ruban. Et ça me ravit, ce genre de choses.
Oui, il y a un jeu sur la langue qui est un vrai plaisir à la fois pour Pratchett lui-même et pour le lecteur. Catherine
Dufour.
Oui, bon,
à la mort de Pratchett, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tout relu et je me suis aperçue que la totalité de mon existence avait été envahie par Pratchett et l'humour de Pratchett. Et au tel point que je parle de Pratchett couramment et sans plus m'en rendre compte. Et hier encore, comme mon fils cherchait ses lunettes qu'il avait sur le nez, je lui ai dit « Toi, tu ne trouverais pas ton cul avec tes deux mains. »
Alors, on peut passer sur cette note particulièrement adaptée.
Non,
on peut passer à la question du monde de Pratchett, de la réalité selon Pratchett. Alors évidemment, c'est pas seulement les Annales du Disque Monde, mais là, ça sonne bizarrement maintenant. C'est aussi évidemment tout ce qu'il a pu construire en dehors. Une chose que je trouve très nettement justement science-fictionnelle, c'est ni un hommage ni une critique dans la fantasy de Pratchett, c'est la manière dont il crée, voire pour les tordre immédiatement, différentes lois, différentes règles qui sont donc une manière de structurer son univers. Et dans ces lois, il y en a qui sont clairement intrinsèques à la nature de son univers, par exemple la loi de la conservation de la réalité qui s'impose aux mages pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi, pour le dire vite. Mais il y a aussi de très nombreuses lois qui sont des lois des histoires, c'est-à-dire que c'est fascinant comme Pratchett arrive à mettre dans un même récit des actions qui sont des actions de personnages tout à fait standards, mais aussi des éléments qui sont des éléments pseudo-métaphysiques et toute une série de règles qui sont finalement des règles qui tiennent au fait que quand on raconte une histoire, il va se passer un certain nombre de choses. Et je pense par exemple au dernier héros, dans lequel clairement il est indiqué que plus l'opposition est importante face à un héros, plus il a de chances de gagner. Et donc ça c'est une des lois de Pratchett que je trouve absolument fascinante, qui fait que effectivement Cohen le barbare peut arriver à potentiellement à battre des dieux, parce que de toute façon il n'y a pas plus puissant. Voilà. Donc ce genre de choses. Donc évidemment les mages qu'on voit ici et qui sont une source inépuisable de ce genre de choses.
T'as la chance sur un million aussi si on a celle-là, c'est qu'on va réussir forcément.
Voilà.
Je sais plus si ça marche. Hein. Je me souviens plus.
Ça marche chez Pratchett en tout cas. Si si ça marche chez lui. Et donc en gros, enfin que dire de la réalité de Pratchett Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Qu'est-ce qui vous semble devoir être retenu?
Quel est le plus important dans la vie? Une bonne dentisterie et du papier toilette double épaisseur. Je trouve ça très vrai aussi.
Et ça, c'est une référence à Conan, en fait. C'est le moment où Conan nous dit assez... Il a été éduqué, on lui a appris la poésie, etc. etc. Et les chefs barbares sont en train de jouer à un jeu littéraire qui est de donner les trois choses les plus importantes dans la vie. Et t'as Conan qui raconte que c'est tuer ses ennemis, entendre les cris de leurs femmes. Il me manque le troisième. Et là, tout le monde trouve ça d'une sagesse étonnante. C'était l'intellectuel.
Et effectivement, dans le film qui est tiré justement du bouquin de Pratchett, où il y a Cohen le barbare, donc, où les gens lui disent « Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un problème avec tuer les femmes ?» Il dit « Non, non, mais croyez-moi, le papier toilette est vachement plus important. » Et fait toute une déclaration sur l'importance du bon papier toilette et de la bonne dentisterie, qui est tout à fait fabuleuse. Et d'ailleurs, à la fin, il récupère des dents de diamant et on lui explique qu'il n'est plus obligé de manger de la soupe, mais qu'il peut se taper du steak. Et il y a ce moment merveilleux, il y a cette espèce de type qui a plus de 80 ans, il est maigre, il est complet. Ben c'est vraiment un vieux Dekati. Et il y a cette ravissante jouvencelle de 20 ans qui est prêtresse de je ne sais plus quel ordre, qui est totalement amoureuse de lui. Et il y a quelqu'un quand même qui vient voir Cohen le barbare et qui lui dit « Écoute, je suis désolé de te dire, mais quand même, bon, vu votre différent âge, il faudrait quand même que tu fasses un brin attention. » Et donc Cohen le barbare avec c'est vraiment, il faut l'imaginer, c'est un squelette ambulant avec des muscles qui pendent sous le bras, enfin, c'est extraordinaire. Il est vêtu d'une espèce de couche culotte et qui dit écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais si compte tenu de ce que je suis, si au moment de la nuit de noces quelque chose de terrible devait se passer, eh ben, tant pis pour elle, hein.
Moi, je rajouterais juste une chose, d'ailleurs, à propos de cela dit, de contraintes et de lois de la narration. Il y a un petit bijou qui s'appelle Drame de Troll, que nous avons sorti au moins deux fois en gratuit, et je ne sais pas, essayer de le trouver. Mais peut-être qu'on l'a mis dans les nouvelles, Patrick.
Oui, hein,
donc voilà, ça va être facile, vous pouvez l'acheter. Et effectivement, là, vous avez une. Enfin, il revisite la vie d'un troll sous le pont qui est quand même. Quelque chose d'emblématique de la fantasy britannique, je vous conseille quoi. Drame de Troll, c'est...
J'ai beaucoup pensé à lui, tu le sais.
Bien sûr. Oui. Ben oui, un troll, oui, c'est comme ça, un troll. Et juste une chose, c'est qu'effectivement, et ça j'y pense hein, en vous écoutant, ce qui est étonnant chez Pratchett, parce que les humoristes comme les clowns ne sont pas censés être des gens très marrants. Pourtant, Pratchett, lui, je pense, déroge à la règle. L'homme était sérieux, hyper rationnel, mais il a prôné une sorte d'optimisme en optant pour le multivers, qui me paraît assez extraordinaire, parce que y a quand même, grâce au multivers, il y a toujours un endroit où on n'est pas mort. T'as beaucoup donné.
Cela dit, il n'aimait pas trop les gens drôles non plus. T'as vu ce qu'il fait aux clowns et aux mimes, c'est absolument atroce.
Oui, mais il faut savoir faire souffrir son
ego. Oui, alors il avait quoi avec les mimes? Quelqu'un sait ce qu'il avait avec les mimes?
Je sais pas. Non, mais c'est un truc anglo-saxon, la trouille du clown et du mime. Hein.
Les mimes, d'une manière générale, sont pas forcément... c'est tellement français que oui, du point de vue anglais...
Les mimes, c'est le patricien qui les met dans une fosse où il a mis un panneau qui leur dit « Apprenez votre texte ». Si je me souviens bien, quelque chose comme ça.
Et Jasper Ford décrit une scène absolument extraordinaire dans son avant-dernier où l'héroïne débarque dans un... Sa voiture quitte la route et elle tombe dans un champ de mimes. Et le champ de mimes, c'est atroce parce que les mimes surgissent du sol et viennent lui faire des signes à la portière et elle ne peut pas sortir. Enfin, c'est un truc absolument épouvantable.
C'est The Walking Mime.
Bravo. De ce point de vue-là, il y a, on parle justement de l'humoriste et en même temps de l'être rationnel. Une chose qui est frappante dans l'ensemble de Pratchett, notamment ceux qui sont liés à la mort, mais pas seulement, c'est la manière dont il arrive à insinuer de façon, dans la trame de sa narration, finalement des remarques sur ce que sont nos croyances. Et la manière dont nos croyances fonctionnent. Je pense au petit Dieu, par exemple, et aux relations qui peuvent s'établir entre les croyants et leur Dieu, par exemple, ou au Père Porcher, et à la façon dont, finalement, des symboles peuvent être des éléments vivifiants d'une culture, et littéralement, dans le cas du Père Porcher. Et il y a cette manière, finalement, de tenir un discours sur les croyances, à partir justement d'une position, enfin pour quelqu'un qui les regarde d'un œil assez critique.
Mais ça suit toujours la loi de la conservation de l'énergie.
Et
de la réalité, oui. Mais il y a ça aussi. Hein, quand tu déposes un cairn, les prières s'accumulent dedans et c'est de l'énergie quelque part et ça fait un dieu. Moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Si tu veux,
et ce qui est amusant, c'est que c'est un matérialisme mystique. C'est-à-dire que finalement, on peut repérer dans tous les objets du monde un effet potentiel. C'est comme le temps qui est accumulé, entretenu par des petits moulins à prière. Bon, si on veut faire couler le temps, bah, il faut le faire couler. Et avec ce matérialisme à l'intérieur même d'une représentation mystique.
C'est un peu qui veut pédaler moins vite, cette histoire de moulin.
Jean-Claude Duniac.
Moi, je me souviens en particulier, en tant que mathématicien, j'étais très sensible à ça, à ces personnages, je crois que c'est en pyramide, qui font des expérimentations sur le système des suites de Zénon d'Élée, c'est-à-dire la flèche qui franchit la moitié de la distance, puis la moitié de la distance restante, puis la moitié de la distance, et qui en théorie n'arrive jamais parce qu'ils n'avaient pas compris le truc. Et donc les types font des expériences, ils lâchent la tortue, ils tirent dessus, et évidemment la tortue se fait avoir à chaque fois, et il y a toujours un physicien pour expliquer que c'est une erreur de mesure et qu'il faut refaire l'expérience. Et ça, je me suis dit, mais c'est tellement ça, quelque part, ça remet tellement en question la manière dont on aborde le problème. Et il était très très fort pour dire, ok, si vous utilisez le mauvais outil conceptuel dans la mauvaise circonstance, vous obtenez des choses totalement hilarantes et absurdes. Je vais vous montrer comment. Et il prenait un outil conceptuel parfaitement admissible, il le mettait dans le mauvais contexte, et c'est un petit peu comme si on essaye de taper sur un clou avec un tournevis. On finit par casser le tournevis et on se fait très mal. Et Pratchett décrivait ça. Et ça, c'est absolument fantastique comme effet parce qu'on peut le faire dans sa vie courante. On peut se dire, ok, je prends l'outil conceptuel dont j'ai l'habitude, typiquement la religion, ça c'est un très mauvais exemple, ça donne Daesh, mais ça peut être quelque chose dont on se dit, tiens, je sais que ça fonctionne de telle façon, on l'applique à autre chose, on applique, je sais pas, la théorie des ensembles mathématiques à sa vie amoureuse, et soit on termine avec un harem, soit on termine seul, et en général, on termine seul.
Mais moi, ce que j'ai toujours particulièrement apprécié chez Pratchett, c'est que non seulement c'est très drôle, mais en plus c'est très intelligent. Et autant j'ai appris des tas de choses sur les croyances, mais aussi sur la façon de créer une monnaie en l'appuyant sur certaines valeurs, comme dans Monnayer, en l'attirant du vide total, comme dans Timbré. Et il y a aussi une intelligence concrète. Moi, je me réfère assez souvent à Pratchett, littéralement, comme maître à penser. Par exemple, vous verrez, en vieillissant, il y a votre travail, il y a une patate chaude qu'on essaiera de plus en plus de vous refiler, qui est le management, gérer une équipe. Et moi, ça m'est arrivé. Et tous les jours, je pense à Pratchett avec Mostrom Ridkul, donc le président de l'Université de l'Invisible, qui donne sa définition de ce qu'est le management d'équipe. Il dit, moi, je suis le président de l'Université de l'Invisible, je n'ai qu'un mot à dire et 1000 enseignants mages me désobéissent, en fait. Oui, je vis ça tous les jours.
Oui, il avait une vision assez précise du fonctionnement de l'Académie.
Il y a un point aussi important. Il a écrit et il a essayé de populariser la science qu'il connaissait, le bon sens, donc à travers justement la science du disque monde, en introduisant par rapport à quelque chose qui était fait par des scientifiques et donc de manière à la fois très sérieuse et très bien vulgarisée, une histoire qui disait « Ok, mettons-le en scène et montrons à quel point dans le disque monde ça ne marche pas pour vous montrer que dans notre monde à nous, ça marche ». Et ça, c'est un travail pédagogique parce que je crois que derrière ce qu'il écrivait, il y avait quand même une vocation de passeur, une vocation de dire apprenons à réfléchir un petit peu, apprenons à être sensibles au moment où on est en train de déraper, on est en train de devenir absurde. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Il me sert effectivement de garde-fou beaucoup.
Mireille Révalant.
Je citerai juste rapidement Heyerdahl qui a dit la science-fiction et je ne sais plus le vrai mot, mais... Bon, mettons le successeur de la philosophie. Oui. Et je pense que voilà, c'est une application à Pratchett. Enfin, j'aurais plein d'idées de philosophes qui me viendraient. Mais là, juste pour rebondir sur Jean-Claude, oui, c'est exactement ça.
Il y a effectivement une philosophie, mais il y a aussi justement une forme de philosophie politique, ou plus exactement de pensée sociale, de pensée de la société chez Pratchett. Et il y a cette réutilisation des éléments de notre monde, mais cette réutilisation, l'Australie, on en parlait, enfin, ou les différents lieux, l'Orient, enfin, tout ça, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, au service d'une réflexion sur la réalité courante et contemporaine, et notamment des relations de pouvoir, des relations de classe, des relations sociales. C'est quand même un écrivain qui parle de la lutte des classes, et à une époque où on n'en parle plus, où ça n'est plus un sujet à proprement parler, et qui la représente d'une manière, effectivement, avec une sorte de puissant bon sens, qui en même temps est une manière de mettre à plat l'attirail du pouvoir, notamment.
C'est là que, pour moi, Pratchett est terriblement un auteur de science-fiction, parce que dans tous ses romans, il y a un propos social, un propos politique, un propos psychologique sur l'humanité. Et pour moi, c'est ça, la science-fiction. Chaque fois que je relis Ronde de nuit, par exemple, et que je pense à l'histoire du Lila, mais c'est pas pour rien que je pense au Muguet, ça me touche profondément, parce que c'est tout l'échec de la Révolution qui est dans cette histoire, toute sa tristesse. Et en même temps, ce que dit Pratchett là aussi, c'est qu'il faut le faire, puisque Vimer, j'espère que personne n'a pas lu Ronde de nuit, donc je vais le dire. Hein, je vais spoiler alert.
On ne le lit pas vraiment seulement pour l'histoire.
Voilà. Vimer va refaire une révolution dont il sait qu'elle va échouer. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher de la faire parce qu'il aime les gens. Et pour moi, c'est un des romans les plus fabuleux pour sa Ronde de nuit. Et je le mets juste à côté du Régiment monstrueux, qui a un autre propos, celui des femmes, de la place des femmes dans le monde. Et avec ces deux-là, je crois que je peux passer un an sur ces deux-là.
Et une chose fascinante, c'est aussi le fait que, malgré tous les ridicules qu'il montre de ces personnages, à part quelques méchants absolus, il y en a très peu, mais à part quelques méchants absolus, on sent qu'il les aime pour leurs défauts, presque plus que pour leurs qualités.
Tout le monde a ses raisons dans Pratchett, c'est évident. Tout le monde a ses raisons, même si elles nous sont monstrueuses.
Il ne loupe aucun sujet important. Enfin, tu parlais de la condition des femmes à travers le régiment monstrueux, mais la question du racisme est continuellement posée. Alors bien sûr, c'est pour défendre des jeunes filles trolls harpistes, ce qui n'est pas facile, mais ça, c'est dans le... Quand Vimer part en vacances, c'est dans Coup de tabac.
C'est des gobelins.
Oui, ah, ouais. Il défend les gobelins, enfin, ouais.
Voilà, peu importe, effectivement, le fait que toutes ces espèces cohabitent dans le disque monde, c'est d'ailleurs un sacré boulot de faire coexister tout ce monde-là, mais c'est un homme qui, effectivement, ne pensait sans doute pas que l'humanité allait beaucoup progresser, mais qu'il fallait œuvrer tout le temps pour que ça aille un peu mieux.
Oui, mais Mireille, excuse-moi, mais quand tu parles de filles gobelins, de problèmes de leur place, le fait qu'elles fassent tapisserie me paraît tout à fait logique.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ils ne pouvaient pas la rater, celle-là.
Mais bon, elles peuvent jouer de la harpe sur une tapisserie.
Et puisque tu parlais de pédagogie, après cet intermède musical... Là, pour moi, un des personnages les plus marquants du disque monde, c'est Suzanne Stoelit. C'est la pédagogie incarnée avec un chignon. Et un jour, j'espère... Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Un jour, j'espère être Suzanne Stoelit. Voilà.
Et on peut peut-être éventuellement dire que Ankh Morpork est une utopie réaliste, de ce point de vue-là.
Oui, bien sûr. Bah, le modèle littéraire de Pratchett, c'est Dickens. Je pense que oui, il y a de la matière pour l'utopie. Ouais.
Alors, avant de passer des questions au public, qui, je pense, boude d'impatience de ce point de vue-là, j'aimerais revenir à la question de l'avenir de Terry Pratchett, puisque finalement, nous sommes moins là pour rendre hommage à ce qu'il a fait que pour tout ce qu'il fera. À la fois, bah, évidemment, dans l'édition, même si malheureusement le temps de traduction a rattrapé l'œuvre de Pratchett. Pendant longtemps, il y a eu un assez gros décalage Et en fait, là, on arrive à un moment où...
Oui, ça a pris du temps. Hein, ça a pris du temps de tout... Pratchett soit traduit en voilà. France. Hein.
Mais donc, quel est l'avenir de Pratchett? Quel avenir envisagez-vous pour Pratchett? À la fois, bah, évidemment, dans l'édition, pratiquement, voilà, il est probable qu'il va rester pour longtemps sur les étagères de librairie. Mais quelle influence est-ce que vous voyez une tradition Pratchett en quelque sorte maintenant que la figure il y a déjà ce qui est, bien sûr mais dans l'avenir est-ce que vous pensez que il va continuer à inspirer des auteurs?
Simon vous demande si vous allez vous reproduire
ensemble, je pense.
Hein, mais bon. Ah.
Qui nous permet de rebondir sur la sexualité chez Pratchett, qui joue à propos...
C'est vrai, nous n'avons pas parlé assez de sexualité chez Pratchett.
S'il y a une sexualité sur Pratchett qui est extrêmement importante, à un moment donné, il s'interroge, et c'est vraiment un problème qu'on peut qualifier de crucial, sur la sexualité et sur le sexe en particulier de la tortue. S'agit-il d'une tortue mâle ou d'une tortue femelle? Ce qui est extrêmement important d'ailleurs, parce que si c'est une tortue femelle, ça veut dire qu'un jour elle va rencontrer un mâle qui va la couvrir, et que par conséquent, le monde qui se retrouvera entre les deux va se retrouver totalement écrasé. Donc le monde réfléchit à sa survie en tant que, je dirais, composant d'un accouplement au milieu duquel il se trouve malheureusement coincé. Donc c'est véritablement la sexualité étudiée au sens premier. Est-ce qu'on va en sortir quelque chose ou est-ce qu'au contraire on va se retrouver totalement coincé dans le truc? Bon. Et croyez-moi, en tant qu'homme, je vis ça pratiquement tous les jours. Hein.
Cela dit, c'est une tortue en apesanteur, elle n'a pas forcément besoin d'être couverte. Mais ça, je... Excusez-moi.
Non, mais il y a plein de sexualité dans Pratchett, dans le huitième... C'est la huitième fille, non? C'est dans
la huitième fille.
Il y a la huitième fille, alors c'est pas dans celui-là. Alors, ça doit être dans Sourcellerie, où il y a un mage qui tombe amoureux, donc qui se défroque, enfin il enlève son chapeau, et il va épouser sa dulcinée, et ils ont 8 enfants, et il y a ses anciens collègues mages qui le regardent en disant « Oh bon sang, il l'a fait au moins 8 fois
!» Et celui où... La Magra qui a épousé Vérance attend le livre des positions. Et alors, je ne sais plus s'il arrive, il y a une histoire avec avec Sean qui se plante, qui donne pas. Je ne sais plus ce qui se passe avec ce livre, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon livre qui arrive, c'est ça?
Les arts maritaux. Les arts maritaux. Et on pourrait chanter ensemble « Le bourdon d'un mage a un nœud au bout ». Non, il est très lourd, il est très grand, il pèse 3 livres avec le, etc.
Et on tente celle du hérisson ou...
Bien, alors je me demande s'il n'est pas temps de passer la parole au public.
Chantez-nous le hérisson.
Pour qu'ils chantent le hérisson ensemble.
Bon, moi, juste une bricole avant, puisqu'on a dit que Patrick traduisait le prochain disque monde. Donc il y a encore un disque monde qui a été écrit par Pratchett, dicté par Pratchett avant sa mort. Donc c'est un cinquième Tiffen, comme ça qu'on les appelle. Et il sortira au mois de mai, si Patrick Couton et Dieu le veuille. On les remercie tous les deux. Voilà, et je pense que quand on parlait de Pratchett, Pratchett est dans son œuvre, je dirais, intellectuellement, dans son rapport à la réalité. Il a, et je vous laisse chercher, il avait un personnage de prédilection qui était vraiment lui. Et je pense que c'est un livre qui va nous dire comment cet homme-là voyait aussi la mort.
Est-ce que, avant, j'ai un scrupule, est-ce que l'un d'entre vous souhaite parler de sa série, enfin ce qu'il a fait avec Stephen Baxter, justement, La Longue Terre, La Longue Mars, si vous avez une... Sinon, on passe tout de suite aux questions, mais si... Non, pas spécialement.
De toute façon, c'est des séries qu'il a conçues en même temps. Ça, c'était étonnant. Moi, je l'ai en fait appris récemment avec Colin Smyth, son agent, il y a un an et demi, qui nous avait expliqué qu'effectivement... il a juste envoyé le manuscrit de la 8e couleur chez les éditeurs. Il a été pris. Il avait La Longue Terre sous le coude. Et finalement, je pense que il a été occupé par ce disque monde. C'est pour ça qu'un jour où il en discutait avec Stephen Baxter, Baxter lui a dit « Mais elle est géniale, ton idée. Allons-y ensemble. » Et c'est pour ça qu'on a La Longue Terre, Longue Guerre, etc. Plus tard. Presque un tout petit peu trop tard. Mais Stephen Baxter a Infini, la longue utopie, ça va paraître sous peu. Oui, c'est une autre. En fait, je pense que voilà, il y a une. L'un est mis dans un monde actuel et du futur, l'autre dans le Londres du 19e siècle, mais c'est bien la même pensée qui est à l'œuvre, hein, la même pensée.
C'est le même Pratchett. Alors je suppose qu'un micro va pouvoir circuler. Y a-t-il des questions ? Il y a une question ici, une question là. On va commencer ici, ensuite on viendra à vous.
Merci. Bonjour, déjà merci à tous pour cette table ronde qui n'est pas ronde en fait, mais merci. Ça faisait plaisir de réentendre parler de quelqu'un qui nous manque comme Pratchett. Personnellement, je ne me suis pas remis encore de son décès. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit par rapport à son intelligence, son intelligence d'écriture, dans le sens où je pense honnêtement que Pratchett est capable de nous tirer des larmes aussi bien d'émotions que de rires. Je pense notamment à Ronde de nuit, qui fait probablement partie de mes préférés, non seulement du gay, mais de l'ensemble des années du Disque Monde, où ce que vit Samuel Vimer est absolument horrible. Il y a un discours, je ne spoil pas, mais à la toute fin, il y a un discours entre Vimer et le patricien qui est absolument poignant et émouvant sur la relation qu'entretiennent les deux hommes dans le passé, dans le présent et certainement dans l'avenir. Et là où je veux en venir, c'est que Pratchett est capable de nous parler et de nous faire ressentir les choses viscéralement avec des personnages auxquels on peut tous s'identifier indépendamment de tout éclat de rire qui peut nous provoquer. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à mon avis la raison pour laquelle Pratchett me manque autant et la raison pour laquelle je continue à lire et à relire ce qu'il nous a offert. Voilà.
Quelqu'un veut réagir ? C'est pas tout à fait une question, mais c'est merci
non,
beaucoup
c'est
pour cette
une remarque autre chose.
Merci beaucoup. Ça ajoute effectivement. Et on va passer. Il y a une question là. Et voilà. Et si d'autres personnes veulent intervenir.
Bonjour. Je voulais juste noter déjà, merci d'avoir organisé ça et mentionner d'abord que je suis probablement pas la seule à devoir beaucoup à Pratchett. J'ai dévoré tous les livres qui étaient dans les bibliothèques locales. C'est là que j'ai découvert le métier de traducteur grâce à Patrick Conton, parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses qui étaient absolument impossibles à traduire.
Si Patrick Couton peut le faire.
Voilà. Et qu'il y avait forcément un travail d'adaptation. Donc j'ai découvert ce qu'était le métier de traducteur. Quand j'ai fini les Disques Mondes, je suis passée à autre chose. Je vais y revenir. Et quand j'ai fini tout ce qu'il y avait en français, je suis passée à l'anglais avec un dictionnaire. Et c'est grâce à lui maintenant que je lis en anglais, que je parle anglais. Et rien que pour ça, je trouve ça formidable. Et tout à l'heure, tout au début, vous disiez que le Disque Monde, c'est la science-fiction. Et je me demandais si on pouvait parler de stratagème.
On peut.
Oui, strata, c'est il y en a deux. Il n'y a pas que strata, il y avait l'autre.
Il y a la face obscure du soleil, ça.
Ouais. Voilà. Et ben,
c'est aussi Only You Can Save Mankind aussi, mais c'est un jeunesse plutôt.
Mais c'était en fait dans ses premiers livres, donc quand il a quitté son travail, il a été journaliste et puis ah oui, il était aussi, je crois, attaché de presse pour une centrale nucléaire, il me semble. Et c'était catastrophique parce que quand les journalistes justement venaient le voir et disaient alors il n'y a pas de fuite et répondaient vous parlez mais de quelle fuite parlez-vous ? Ah cette fuite là, non c'est rien. Voilà, donc il a rapidement fait autre chose. Et effectivement, ses premiers bouquins, c'était des livres de SF que moi j'aime beaucoup et qui ont eu un succès extrêmement limité. Sachant que le premier vrai succès de Pratchett, c'est quand il a commencé sa série du Disque Monde, elle a commencé à être adaptée à la BBC. Et là, ça a commencé à prendre. Et je crois que le livre qu'il a fait exposer, c'est Mortimer.
Une chose qui me fait beaucoup rire à propos de Pratchett, c'est que. Autant on peut parler de science-fiction comme ça dans un milieu de mondaine, comme on dit, et rencontrer un vide intersidéral. Et puis brutalement, on met Terry Pratchett dans la boucle et les gens réagissent parce qu'ils en ont lu. Et quand on leur dit, mais Vous aimez Pratchett et vous n'aimez pas la SF? Comment vous faites?
Il y a tellement autre chose que la science-fiction dans Pratchett.
Non, mais...
Il n'y a pas que de la science-fiction.
Mais Pratchett, il disait que de toute façon, la science-fiction, c'est de la fantaisie avec des boulons.
C'est lui. Mais c'est important,
on peut ne pas être
boulon. Le boulon.
Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, finalement, il y a beaucoup de boulons dans sa fantaisie à lui. Hein. C'est extrêmement concret et matérialiste, même s'il joue beaucoup avec les représentations.
C'est une fantaisie rêvetée, même.
Et moi, j'ai lu une fois une définition qui m'a paru éblouissante de Pratchett, c'est que c'est quelqu'un qui a l'art de faire du trivial avec du merveilleux. Autant il y a beaucoup de gens qui essayent de tirer du merveilleux de notre monde trivial, autant lui, il met en scène des mages, des sorcières, qui ont comme souci essentiellement leurs problèmes de digestion et de corps aux pieds. C'est ça qu'il a de fabuleux, Pratchett.
Et de jupons.
Une autre question ?
Ici.
On a le temps pour une ou deux questions. Oui, ici, pardon.
On aime tellement le disque monde qu'on n'a pas envie que ça s'arrête avec Pratchett. Et évidemment, on essaie de penser à des successeurs. Et je pense à Neil Gaiman, parce que je sais qu'ils avaient une amitié très forte. Est-ce que vous avez un petit peu de détails sur ce lien qui les unissait?
Pour moi, Gaiman n'est pas tout à fait aussi drôle. Et il est beaucoup plus poète que Pratchett. En plus, Gaiman est Gaiman. Je ne crois pas qu'il voudrait changer sa peau.
Non, en tout cas, pour ce qui est des proches de Pratchett jusque-là, il a été clairement dit que personne ne prendrait la suite. Donc on va s'en tenir là pour l'instant. Et effectivement, je vois mal Gaiman étant l'homme qu'il est, l'écrivain et le penseur, comment il pourrait endosser. Enfin, il se trouve que Pratchett avait eu des amitiés, mais très fortes. Et je trouve que ce qu'ont fait Gaiman et Baxter à la fin de sa vie, c'est extraordinaire. C'est la preuve que cet homme-là était apprécié. Et ils ont fait un bout de chemin avec lui pour lui permettre d'aller au bout de son œuvre. C'est déjà énorme. Je trouve que j'ai une grande admiration pour ce qu'ils ont fait. Et je les en remercie parce qu'en plus, ce sont de bons bouquins. Mais normalement, il faut accepter le fait que l'œuvre vivra parce qu'il y aura des lecteurs de cette œuvre. Voilà.
Et notamment, il n'est pas question du tout pour l'instant de prolonger, d'aller chercher les scénarios qu'il avait pu laisser en plan.
Sa fille Rayana a clairement dit que non. Maintenant, après, les gens peuvent changer d'avis pour des raisons que nous ignorons tous. Mais
Il n'est pas impossible qu'il y ait une publication des textes en l'état un jour.
On parle
d'érudition là. Voilà. Là, c'est l'érudition, c'est plus la lecture. Plaisir.
Peut-être que son agent,
le même plaisir,
qui regrettait toujours qu'il ne soit pas assez rentré à l'université, ce que Pratchett, lui, je pense qu'il s'en fichait complètement. Mais par contre, pour l'œuvre, pour la littérature, ça va être le moment que les œuvres de Pratchett rentrent. Mais comme disait Manchette, tout ce qui est universitaire, je vais le rajouter là, pardon Simon, tout ce qui est universitaire est charogne. Et c'est pas une bonne nouvelle.
Merci
en tout
pour
cas, En tout cas, moi, je serais désespérée qu'on fasse au disque monde de ce qu'on a fait à Dune. Je ne peux
Il
pas
en est
le
pas
supporter.
Question.
Voilà.
Alors, une question de plus. Sinon, on peut parler encore assez longtemps. Il y a une question ici. Et ça sera la dernière.
Donc tout à l'heure, en fait, vous disiez que Pratchett, c'est de la science-fiction parce que justement, il y a tout ce travail. C'est bon, j'arrive à parler dans le micro ?
Oui, c'est bon.
C'est bon ? On m'entend ?
Allez-y, allez-y.
Parce qu'il y a donc justement un travail spéculatif sur réflexion sur notre propre monde, parce qu'il y a des boulons, parce qu'il y a organisé, parce qu'il y a une structure, etc. Et vous dites, c'est pour ça que c'est de la science-fiction. Mais moi, je dirais plutôt au contraire, ça prouve que la fantasy peut aussi faire le même travail que la science-fiction. Sans en être. Enfin, je veux dire, vous associez la fantaisie à l'aléatoire, au manque de structure. Je pense que Pratchett nous prouve au contraire que la fantaisie, il appelait lui-même son travail A World, A Mirror of Worlds, donc un miroir de monde. Et je dirais que ça laisse une trace pour de nouveaux auteurs de fantaisie à faire un travail aussi de réflexion sur notre propre monde. Excusez-moi si je suis en train de dire n'importe quoi.
Non, non, c'est tout à fait légitime.
Si je puis me permettre, là tu tombes dans une espèce de guerre de religion absolument monstrueuse. Donc il faut que tu saches que le boucher t'attend à la sortie du truc. Mais je peux quand même dire une chose, c'est que la fantasy, et je me rappelle d'une discussion avec Stéphane Marsan, extraordinaire pour ça. Je vous raconte l'anecdote parce qu'elle va permettre de situer. On était dans un avion pour aller à Montréal, à la Convention mondiale, lui et moi. Et il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, tu es fait pour être éditeur de science-fiction parce que tu comprends comment l'avion vole et les raisons pour lesquelles il vole. Je lui avais expliqué pourquoi le petit gâteau qu'il venait d'avoir dans un sac, dans une enveloppe en plastique, était tout gonflé. Et il m'a dit, et moi, je suis un bon éditeur de fantasy parce que je sais pourquoi les dragons sont nécessaires et par conséquent, je comprends très bien pourquoi les avions volent. Et la différence entre la fantasy et la science-fiction, elle est là, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a, dans le cadre de la fantasy, on arrive à la même démarche et que Pratchett, c'est clair, mais en utilisant la mythopoïèse, en utilisant le mythe, en utilisant les règles même de, je dirais, de mythification du monde. Là où la science-fiction utilise la logique, le bon sens, le raisonnement factuel et non pas le raisonnement imprégné de, je dirais, de mythe qui n'est pas inférieur ou supérieur, qui est différent. Et donc, je pense que Pratchett est effectivement un auteur de science-fiction dans sa démarche, qui a par contre utilisé tout ce qui est la quincaillerie de fantasy, et la quincaillerie de fantasy, comme il y a une quincaillerie de science-fiction, hein, soyons clairs, pour démontrer, je dirais, en changeant de contexte, que ça marche aussi.
Ouais. Bien, nous terminerons là-dessus dans
4 minutes. Non, moi je voulais dire, mademoiselle...
Pas de problème, allez-y.
Vous avez tout à fait raison. D'un côté, vous avez les littératures blanches où globalement tout se passe entre le mari, la femme et l'amant aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça SFFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'est tout ce qui importe. Après, effectivement, on peut les laisser s'entretuer entre eux, ça les occupe. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, la fantasy a autant vocation à avoir sa propre logique interne que la science-fiction.
Bien, nous allons donc... merci à vous, merci aux intervenants.